Bon vendredi tout le monde, ici Mickaël Lafleur et c'est l'heure des meilleurs moments du vestiaire au 94.5 Unique FM. On vous rappelle que dans le vestiaire, c'est diffusé du lundi au jeudi de 17h30 à 19h. Et on a un match au hockey Véronique Lossieur des Sénateurs ce soir à 19h contre les Rangers de New York au Madison Square Garden à ne pas manquer. Ça sera présenté sur nos ondes. À l'émission aujourd'hui, dont quatre invités de grande taille dans notre grand bagage de collaborateurs. Le dernier bloc est réservé à Mathieu Toupin de Tennis Outaouais Performance qui nous parle de la grosse victoire du Canada face à l'Australie à la Coupe Davis. Il va nous analyser le tout et décrire où est rendu le pays du Canada dans leur grand marché du tennis. On a eu la chance de parler aussi à Christian Veilleux, lui qui est un joueur de football de la région. Il est originaire d'Orléans. Il est maintenant un joueur de la NCAA puisqu'il a terminé son passage avec l'équipe de Penn State. Alors il va nous jaser de tous ces points-là avec Nicolas Saint-Pierre. Jacques Martin, ancien entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa, et comme à l'habitude, il va nous parler de l'actualité des Sénateurs et dans le monde de la Ligue nationale de hockey. Et on débute ses meilleurs moments avec Norman Flynn, nouveau collaborateur depuis deux semaines. Il est analyste pour le hockey des Sénateurs à RDS. Alors, je laisse la parole à l'animateur de l'émission dans le vestiaire, Nicolas Saint-Pierre.
Parlons un peu des Sénateurs qui étaient de retour à l'entraînement aujourd'hui. Avec grand plaisir, on en jase avec Norman Flynn. Salut Norm, comment ça va?
Salut, ça va bien toi Nick?
Ça va super bien, merci. Deux victoires de suite, on a très bien terminé ce voyage-là. Fiche de 500 et évidemment, la victoire fait foi de tout. On a senti les Sénateurs aujourd'hui avec un petit peu plus de sourire, plus de dynamique. C'est très positif ça là.
Ben c'est plus que positif parce qu'écoute, quand tu travailles fort, tu n'es pas récompensé parce qu'il faut être honnête, il y a beaucoup de matchs que les Sénateurs cette année avaient donné tout ce qu'il y avait. Ils avaient travaillé fort, mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Je pense que dans les deux derniers matchs, ce qui était intéressant surtout, c'est de voir des jeux que les joueurs ont exécutés puis que ça a donné des buts puis qu'ils ont été capables de tenir pendant 60 minutes la cadence. Il y a deux choses pour moi que je retiens dans ces deux victoires-là. C'est, comme je t'ai dit, les jeux, il y a eu une créativité. Il y avait des gars qui se complétaient puis je voyais que l'implication, surtout des défenseurs dans le dernier match, ça a été encore plus important puis ils ont concrétisé. Gardien de but, il faut que le gardien de but soit bon. Il peut pas juste être ordinaire, ils ont besoin de plus. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça pour cette équipe-là. Est-ce que ça va être comme ça quand ils vont avoir de meilleurs défenseurs ou des défenseurs plus matures, plus prêts à affronter les charges que la Ligue nationale a en offensive dans la majeure partie des équipes? Probablement qu'ils n'auront pas besoin d'un aussi bon gardien. Mais dans la situation qu'ils sont encore, avec pour moi le manque de au moins deux gars défenseurs d'expérience dans le top 4, il faut que ton gardien de but te sauve. Puis peut-être pas à chaque soir, mais dans la plupart des matchs, il faut qu'il te sauve. Puis c'était là, surtout dans le dernier, j'ai trouvé que il avait été bon Talbot.
Bon, et 9,26 de pourcentage contre Los Angeles, puis contre Anaheim, 969. Donc, un pourcentage combiné de 947. Puis on s'entend, là, l'un ne va pas sans l'autre. T'as un gardien en pleine possession de ses moyens. C'est sûr que les gars en avant d'eux jouent avec beaucoup plus d'aisance, un petit peu moins sur les talons, là.
Eh bien, c'est sûr, je te rappelle le match, je me rappelle, je pense que trois matchs, c'était 2-1. C'est-tu le match contre... Je me rappelle plus exact, là, le match, c'était 2-1. Puis tu as eu deux chances de scorer. Tu as eu Stoudz là, puis tu as eu Kachuk qui sont arrivés back-to-back en deuxième période. Il aurait pu faire 2-2. Non, ça n'arrive pas. Bang, la rondelle retourne de l'autre côté. Et quand Talbot a donné deux buts, tu sais, des mauvais angles, là, le deuxième, ouais. C'est un tir qui venait du bord de la bande, ça a dévié, puis ça a rentré. Tu travailles fort, comme je disais tantôt, puis tu aurais pu faire 2-2. Au contraire, c'est 3-1. J'ai senti, là, que ça commençait à être dangereux. Parce que à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Le syndrome des équipes perdantes, c'est la fameuse phrase « not again ». Les gars sont là, c'est bien dire « non, pas encore à soir ». On n'a pas de break, puis bang, la rondelle s'en vient dans notre zone, puis dans le net. Fait que ce feeling-là, là, je peux te dire, pour avoir coaché assez longtemps, là, les équipes qui perdent de façon régulière, là, c'est pas long que ça les charge. Puis ça devient lourd, puis ça devient qu'en troisième période, t'es pas une bonne équipe. Regarde leur fiche en troisième période quand ils tirent de l'arrière à Ottawa. Là. C'est pas une bonne équipe quand ils tirent de l'arrière. Pourquoi? Parce que ce sentiment-là, à un moment donné, ça s'installe quand tu accumules les défaites. Mais j'espère que là, les deux victoires vont les relancer. C'est un autre... là, affrontent deux fois la même équipe, une bonne équipe en les Rangers de New York. Fait que j'espère qu'ils vont être capables de transporter cette énergie-là à ces matchs-là, puis retrouver, je dis bien, leur force de caractère pour mieux jouer en troisième période.
Dans ces deux matchs-là, dans ces deux victoires, je pense qu'on ne se trompe pas non plus, c'est que le breakout de la sortie de zone a été beaucoup plus efficace. J'en ai parlé un peu avec Thomas Chabot aujourd'hui, puis il dit que dans ces deux matchs-là, on utilisait plus le far side D, c'est-à-dire qu'en passant sur le défenseur plus éloigné, ça ouvrait plus de glace pour les attaquants qui recevaient la rondelle et qui pouvaient justement plus contrôler en entrée de territoire. D'accord avec ça? Est-ce que tu as noté ça toi aussi dans ces deux matchs-là?
Bien, moi, ce que j'ai noté, c'est que il faut que tu aies un ajustement. Quand tu n'as pas l'offensive que tu as besoin, tu as besoin d'un ajustement à tes attaquants. Moi, je trouvais qu'on jouait beaucoup, beaucoup le long stretch pass. On ouvrait carrément là, le milieu. C'est-à-dire que le défenseur, il avait la rondelle, bang, les trois attaquants étaient partis loin. Puis souvent, ça devenait problématique parce qu'il y a des équipes qui jouent tête dans la zone centrale. Fait que ces passes-là, ils n'arrivaient pas tout le temps à destination. Puis le bang, on redonnait pas des surnombres tout le temps, mais des quasi-surnombres. En tout cas, le temps de possession de l'équipe adverse dans le territoire des Sénateurs était long parce qu'on sortait pas. Là, j'aime ce que je vois. Il rentre un petit peu plus en bas. Puis oui, quand le défenseur, exemple, gauche, il pogne la rondelle, ton défenseur droit, il peut sortir et aller couper en arrière des défenseurs là-bas. Bon, oui, c'est correct, ça. Puis je l'ai vu qu'il l'a essayé. Ils l'ont fait une couple de fois. Mais comme tu dis, l'utilisation de l'autre défenseur là-bas, c'est correct. Puis lui, ça lui donne du temps quand il vient de recevoir la rondelle. Parce que tu fais cette passe-là pour battre la pression ennemie. Parce que la pression ennemie, elle vient vite. Mais si t'as un défenseur de l'autre côté en option, qui est un peu en retrait, puis il redonne le puck, puis il s'y attend, lui, il va avoir une couple de fractions, tu sais, une fraction de seconde de plus pour faire le jeu aux attaquants. Fait que ça, oui, je l'ai noté. Mais sais-tu comment ça vient, ça? C'est ça vient quand le défenseur et l'attaquant, ils jouent ensemble. Ouais. Puis il y a des gros bouts que j'ai trouvés dans les défaites où les attaquants, ils essayaient d'être la solution tout seul. Puis vous autres, la défense, là, occupez-vous dans l'arrière, nous autres, on va s'occuper d'en avant. Mais ça marche pas de même, une équipe gagnante. Une équipe gagnante, c'est un tout. Ça commence par ton gardien de but, puis la communication, ton gardien de but, puis tes défenseurs. Puis après ça, tes défenseurs, le respect qu'ils ont pour les attaquants, puis les attaquants, le respect qu'ils ont pour les défenseurs. Puis à un moment donné, là, il y a eu comme un bris. Puis j'ai vu des fois, sur la glace, là, Chabot, puis des fois, dans Kachak, je regardais, là, puis ils revenaient au banc, puis ça s'engueulait pas. Pourquoi tu me l'as pas envoyé là? Pourquoi tu sais qu'est-ce qu'ils disent? Quand t'es dehors coaché, tu le vois que tes gars disent. Pourquoi t'as pas envoyé là? Pourquoi t'as pas fait ça? Là, ils commençaient à avoir, je dirais pas de la discorde, c'est pas le mot, mais je dirais qu'ils commençaient à avoir des arguments. Ils commençaient à avoir un petit peu de dissociation. Fait que là, qu'est-ce que tu fais comme attaquant? Ben, on va s'entendre, nous autres, à toi, on va essayer de régler le problème. Seul, t'impliques pas tes dés, fait que ça devient lourd. Puis je pense, je me trompe pas, là, mais je pense qu'Ottawa, la participation des défenseurs à l'attaque, c'est une des pires de la Ligue. Je n'ai pas les stats aujourd'hui après deux games, là, mais je pense que la participation offensive des défenseurs des Sénateurs, c'est une des pires dans la Ligue. Fait que ça indique un petit peu que les attaquants, ils se l'ont fait dire, là. On a deux bonnes premières lignes dans la Ligue, on est capable de battre n'importe qui, puis ceux qui sont fait dire, des fois, je trouve qu'il a trouvé la solution tout seul.
Sanderson donne espoir, cependant. Je veux te faire entendre un audio. C'est le point de presse de DJ Smith aujourd'hui, puis il répondait à ma question. Puis c'était pas pour brasser la soupe, puis pas pour douter encore une fois de la qualité de son jeu, parce que c'est probablement le meilleur de la formation en ce moment. Je parle de Brady Tkachuk. Mais une chose est sûre, c'est qu'en ce moment, la tendance est à la baisse au niveau des mises en échec. Puis on s'entend côté identité, Norm, s'il y en a un qui représente l'identité qu'on veut se donner chez les Sénateurs, c'est bien Brady Tkachuk. Or, si t'enlèves les mises en échec, t'enlèves un peu de son piquant. Alors, questionné à ça, j'ai demandé, est-ce qu'il y a une tendance là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait lire? Écoutons la réponse de DJ Smith. Par la suite, je vais t'inviter à commenter.
He's got the puck more. He's got the puck a lot more. You know, he's holding on to pucks. He's also, I think what we need to understand is that when the puck gets dumped in and Brady Tkachuk is on you going to get it, not a whole lot of guys are going back for it. A lot of guys are letting him get there or getting out of the way. And the hits you'll see Brady have is when he's tracking back, when he's forecheck reloading and he gets the guy on the wall. But off the forecheck, there's not a whole lot of guys that want to get hit by him. And we've talked about, you know, lengthening his career is that if they don't want to go back and get it, you got to take the puck and use your stick to get the puck and then go on offense. So, you know, if it requires early in the game, a guy goes back and Brady's going to smack him. He's sure he's going to smack him, but I want Brady to have the puck. And I think, you know, a constant conversation with him is very few people want to go back and get it. when he's chasing him. So take the puck.
On parle du temps de possession. Effectivement, est un leader pour cette formation-là à 58,1%. Mais reste que l'explication, il dit qu'il n'y a personne qui veut aller dans le coin puis aller battre pour la rondelle quand Tkachuk s'amène. Fait que moi, quand j'ai dit, t'as le choix entre plaquer puis prendre la rondelle, ramasse la rondelle puis fais quelque chose avec. Est-ce que tu es d'accord avec les explications de DJ Smith là-dessus ou est-ce que tu vois quelque chose d'autre?
100% d'accord avec lui. Moi, au début de la saison, j'étais un de ceux qui disait, oh, faut le calmer, il voulait se pogner avec tout le monde. La minute qu'il y avait un gars qui regardait un gars de travers, il voulait se pogner avec tout le monde. Il faut que tu contrôles ça. C'est parce que c'est un de tes meilleurs joueurs. Il peut pas aller sur le match de punition avec un gars de quatrième ligne à tous les games. Moi, je suis coach au bord. Il va te le faire sortir vite. Mon gars de quatre, il va aller l'écœurer. Puis, tu viens de perdre ton meilleur joueur. Il faut pas oublier que, tu sais, m'asseoir avec lui et discuter, c'est en pleine discussion, j'aurais. Faut pas t'oublier, là, t'es le meilleur joueur de l'équipe, ça, là. En attaque, là, t'es notre king. Fait que si toi, tu te ramasses sur le banc de punition, tu te punis toi, mais tu nous punis nous autres, surtout. Fait qu'il faut que tu sois capable de tempérer. Avec qui tu vas y aller, quand tu vas y aller, puis comment tu vas le faire. Pour ce qui est des mises en échec, je comprends un petit peu, puis il est pas... Au début de ta carrière, tu sais, il voulait s'établir comme un gars physique. Ouais. Au début de ta carrière, les gars, ils vont te laisser faire un peu, mais là, ils le connaissent. Le défenseur, il sait très bien que quand il vient de faire sa passe, lui, là, s'il arrive en dedans de deux secondes, c'est sûr qu'il va te frapper. Il va pas là pour juste tourner, lui, là. Il va là pour te frapper. Fait que ça, c'est connu. Maintenant qu'il a fait sa marque là-dessus, moi, j'ai pas de problème à ce qu'à la fin de l'année, il n'y ait pas plus de body check dans l'équipe. Je m'en fous. Mais qu'il perde pas la façon physique qu'il joue. S'il faut qu'il gagne le puck de temps en temps avec ses mains, parce qu'il en a des bonnes mains aussi, c'est bien correct, parce que ça n'aura jamais... Il n'y aura jamais l'étiquette d'un gars qui est fragile ou qui est peureux ou qui va du bout de la palette. Il n'aura jamais cette étiquette-là. Fait que ces statistiques-là, pour moi, ils ont moins d'importance. Mais la game physique, il y joue quand même. Puis la game physique, il y joue pendant tous les matchs, que ce soit à maison ou sur la route, il joue la même game. Puis DJ, j'aime bien son explication, puis tu vois que le gars, il est proche de son capitaine. Parce qu'il peut y parler de ces choses-là. À un jeune âge, il a besoin d'entendre ça. Tu sais, on regarde le capitaine des Sénateurs d'Ottawa, tu le regardes jouer, tu le regardes, ben ouais, c'est un vétéran, ça. Ouais. Mais c'est un corps d'homme avec une tête d'enfant encore, puis c'est un capitaine d'une équipe d'Ligue nationale. Il a besoin d'être coaché, il a besoin que son coach se prenne de côté de temps en temps, puis j'ose avec. Tu sais, l'autre soir, quand il s'en est pogné à Reinhardt, après le body check, contre Zoub, je pense que c'était contre Sanderson à défense, ouais. Il s'est fait frapper, puis il est allé lui ramasser. Tu sais, les gars le savent, là. Quand les gars donnent un body check, si lui, ça glace, les gars regardent, ils savent. Ils disent que Tkachuk s'en vient. Tkachuk s'en vient. Ça. Puis moi, je trouve ça correct. Puis il y en a qui disent, pourquoi tu lui laisserais faire ça? Il va se blesser aux mains. Hey, si j'enlève ça de sa game, là, lui, là, c'est un bulldog. Là. J'enlève ça, je ne ferais pas un choix avec un bulldog. Là. C'est un bulldog, il va rester un bulldog. Il faut qu'il morde. Des fois, il va me coûter un 2. Des fois, il va me coûter un 5. Mais en général, ce qu'il va t'apporter est plus grand que cette pénalité-là. Fait qu'il faut juste que Brady devienne plus mature dans sa game. Et ça, il va le comprendre en autant qu'il y a un coach comme DJ Smith qui est capable d'aller le voir et il dit hey, kid, t'es bon là. Mais il faut que ça t'améliore ça. Parce que si tu n'améliores pas ça, tu nous fais mal et tu te fais mal. Fait que tant aussi longtemps que le coach va être capable de jaser avec son capitaine de choses comme ça, puis le capitaine ne devient pas plus gros que l'équipe et plus gros que le coach, il dit au coach, regarde, là, tu me l'as joué comme je veux. C'est pas ça. Là. Je vois que DJ Smith, j'aime ce que j'entends de lui parce qu'il a dans la main son équipe. Peut-être pas les résultats, puis il n'y a pas les points qu'il aimerait avoir, c'est certain. Mais quand tu as ton capitaine puis ton groupe, ton leadership group là, dans ta main, comme il l'a là, moi je pense que c'est de très bon augure pour le proche avenir. Là. Si je regarde les stats, là, je te dirais pas demain matin, je t'assurerai qu'ils vont faire les playoffs parce que c'est tough là, rendu où ils sont là, puis il faut qu'ils gagnent un paquet de collés. Là. Mais c'est sûr et certain qu'ils vont batailler jusqu'à la fin.
Sénateur Rangers, demain sur nos ondes au hockey, Véronique Lasseur, des Sénateurs. On te remercie gros comme le bras, Norm, et on se dit à la semaine prochaine. Bon match demain.
Merci. Salut.
Norman Flynn, mesdames, messieurs, qui nous parle des Sénateurs une fois la semaine, tous les mardis.
Notre prochain invité est nul autre que Jacques Martin pour nous parler de l'actualité avec les Sénateurs et dans le monde de la Ligue nationale de hockey. Il va aussi réagir sur la défaite des Sens contre les Rangers mercredi dernier par la marque de 3-1.
Continuons la discussion hockey avec Jacques Martin. Jacques, comment vas-tu?
Ça va très bien, Nicolas.
Jacques, je voudrais avoir ta réaction, évidemment, un gars que tu connais très, très bien, l'ACV dont a été victime Chris Letang, puis quelle sera la suite des choses pour lui, selon toi?
Bien, ça me rappelle, disons, je pense que c'est en 2014, peut-être dans ma première année avec les Pingouins, où ce que Chris avait subi le même même scénario. C'était même le soir avant le départ pour le voyage avec les mères. Et je me rappelle, Chris s'était présenté avec sa mère, avait pris l'avion. On se rendait, on avait une partie à Los Angeles, Anaheim. Je pense que c'était jeudi, vendredi et dimanche à Phoenix, en Arizona. Puis je me rappelle que lorsqu'on est arrivé à Los Angeles, notre médecin qui voyageait avec l'équipe avait entrepris des tests pour connaître plus le déroulement de ce qui avait vraiment arrivé. Je pense qu'il n'avait pas réalisé en premier que c'était vraiment un AVC. Donc, à la suite de différents tests, c'est le lendemain, que lors du match, que nos docteurs nous avaient averti qu'il avait besoin de plus de tests, puis qu'il serait à l'extérieur du jeu pour une certaine période de temps. Donc, heureusement, je pense qu'il semble pas avoir eu de séquelles. J'écoutais un peu ou j'ai lu les commentaires. On sait qu'il était au match des Pingouins, leur dernier match. Il était là, il a parlé aux joueurs, parlé aux entraîneurs, et ainsi de suite. Donc, on espère que ça ne sera pas trop long. Je pense que la première fois, je pense qu'il y avait peut-être eu une absence peut-être de 2 mois. Au moins, cette fois-ci, ils ont une référence, mais c'est quelque chose qui est quand même inquiétant, tu sais, quand tu regardes une de tes vedettes qui subit une telle procédure. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à s'inquiéter à long terme.
À 35 ans, est-ce que tu penses qu'il est à la croisée des chemins ou tu penses qu'il sera de retour pour continuer sa saison et sa carrière?
Ben, je pense qu'il va être de retour. Il veut vraiment jouer, participer. Je pense que le côté de médical doit s'assurer que il n'y a pas de sa participation au jeu n'aggrave pas ou n'accélère pas ou n'endommage pas les chances de devenir plus à risque. Je pense que c'est ça qui est important dans ces choses-là. On ne connaît pas l'avenir, mais des fois, c'est des choses qui arrivent, qui sont précipitées, puis qu'on a de la difficulté à comprendre pourquoi. Parce que c'est quand même un athlète en excellente condition et toujours un des meilleurs conditions de l'équipe. Donc, c'est pas une situation de condition physique. Je pense que c'est quelque chose qui retourne à sa naissance. Je pense que ça doit être observé par le personnel de médecins des Pingouins.
On touche du bois pour lui, puis plein d'ondes positives pour Chris Le Temps. Alors, je pose la question, comment vendre à tes joueurs de pointe d'être plus responsables ou de mieux jouer défensivement?
Bien, je pense que la réponse, c'est si tu veux gagner, t'as pas le choix. puis je pense, moi, ça me fait penser à mes années lorsque je suis arrivé à Ottawa avec notre équipe. Au début, on n'avait pas de gros marqueurs. Donc, il fallait bien jouer sans la rondelle. Il fallait faire sûr qu'on prenait soin. On aidait notre gardien de but. On défendait bien. Puis qu'on pouvait gagner des matchs corsés, 2-1, 3-2, ainsi de suite. Et à mesure que le talent s'est amélioré, on a amélioré nos chances de marquer, on a amélioré notre production offensive, mais on a quand même gardé nos bonnes habitudes. Puis je pense que c'est un bel exemple des Leafs de Toronto. Je pense qu'il démontre l'engagement. Puis tu le vois lorsque tu regardes le match, lorsque l'équipe adverse attaque les Leafs, souvent on va voir un joueur adverse qui va rentrer en zone offensive avec la rondelle, mais il fait face à deux défenseurs puis une pression d'un des avants des livres. Donc, c'est difficile. Tu peux pas acheter de temps, tu peux pas acheter d'espace. Donc, c'est difficile de compléter un jeu lorsque tu es 1-3. Donc, c'est cette pression, cette arrière-pression qui est cruciale. Puis, pour jouer ce genre de hockey, tu as besoin d'un engagement de la part des avants, de ce qu'on appelle en termes anglais « reloader », lorsque tu perds la rondelle ou lorsque la rondelle change de côté, tu « reload », tu reviens dans le centre de la glace, puis tu connais tes responsabilités, puis la situation est simple, c'est avoir plus de joueurs que l'adversaire près de la rondelle, puis la majorité du temps, tu vas avoir une chance de reprendre possession de la rondelle et relancer l'attaque.
Quand je disais dans mon préambule que les choses s'étaient redressées pour les Blues, on peut dire la même chose pour les Maple Leafs qui avaient eu un début de saison, on peut dire chaotique. J'entendais les explications hier d'Éric Brassard, puis je savais pas de le mettre en doute, c'est pas ça, mais après la défaite, encore une fois, des sénateurs hier, lui parlait encore de cet adage qu'on dit qu'après un long voyage, c'est toujours difficile le premier match à domicile pour une équipe qui revient de ce voyage-là. Or, pourquoi c'est si difficile, Jacques?
Mais je pense si j'avais la réponse, j'aurais pu l'embouteiller puis la vendre. Mais non, c'est difficile. Ça dépend des équipes aussi, puis ça dépend des situations. Je pense dans le cas des sénateurs, je pense qu'ils sont revenus. Ils jouaient hier soir, un mercredi soir. Je pense qu'ils avaient joué c'était
Dimanche
soir, ouais. Dimanche, qui ont joué tard à Los Angeles. Donc, ils ont voyagé lundi. Fait que ça leur a donné. Est-ce que mardi, est-ce que tu pratiques ou c'est une journée de congé?
Ils ont eu un entraînement mardi.
Ils ont eu un entraînement mardi. Ouais. Ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre. Est-ce que tu es mieux des fois, peut-être, lorsque tu viens d'un long envolé de Los Angeles, comme qu'ils ont fait lundi, peut-être est-ce que c'est un travail, un exercice en gymnase, un travail peut-être de 45 minutes, une heure, les gars vont à la maison, puis se reposent mardi et patinent mercredi matin. J'ai pas la réponse, souvent, c'est assez différentes formules, puis je sais que tant que tu gagnes, c'est beaucoup plus facile de donner des congés, des journées de congés, parce que c'est difficile des fois, les médias, le monde a difficulté à comprendre pourquoi les joueurs auraient une journée de congé, disons, après avoir voyagé une journée le lundi, mais ça prend quand même beaucoup d'énergie, tout ça. Fait qu'il y a différentes façons de le regarder, mais c'est d'essayer de trouver une solution avec connaître ton personnel, connaître tes joueurs. Puis en général, je pense que les bonnes équipes sont capables de le faire.
On s'excuse évidemment pour les petits problèmes techniques, mais j'ai mis 30 sous dans la machine, puis là, ça fonctionne. Alors, de retour avec Jacques Martin. Jacques, je m'excuse, mais la technologie, je suis pas trop bon dans la technique. Alors, voilà. Alors, voilà le résultat. Alors, pour poursuivre la discussion... J'aimerais parler un peu de Seattle, parce qu'on doit admettre que cette équipe-là est extrêmement captivante à regarder, surprenante même. 10-1-1, il y a les férus de statistiques avancées sur qui on a basé le dernier repêchage expansion, qui doivent dire victoire, mais de ta perspective, qu'est-ce qui se passe de bon à Seattle?
Bien, je pense que, pour donner crédit, disons, au management group, qui a bâti cette équipe-là, puis je pense qu'on peut réaliser que il faut réaliser que les équipes d'expansion dans les dernières années, on connaît le prix d'avoir une équipe, donc on a changé les règlements. C'est complètement différent que lorsque les sénateurs ont rentré dans la ligue. Maintenant, les choix de joueurs est beaucoup plus intéressant, de meilleurs joueurs disponibles. Puis on voit que oui, tu n'as peut-être pas les étoiles, les grosses étoiles pour que tu repêches ces joueurs-là, mais tu peux aller chercher de très bons joueurs de d'autres équipes. Et lorsqu'on voit Seattle, on voit que c'est une équipe qui travaille très bien, qui a un bon jeu d'ensemble, un bon jeu d'équipe, qui joue très bien en réalité sans la rondelle, mais qui aussi cette année marque beaucoup de buts. Et cette année, je pense qu'il faut donner crédit à leur gardien de but, Jones, qu'ils ont été cherchés durant la saison morte, parce qu'on sait que Grubauer, l'année passée, ils avaient misé beaucoup sur Grubauer, et je pense que ça a été une déception. Son record s'affiche, il n'a pas performé à la hauteur, aux attentes de l'équipe. Donc, cette année, il a manqué quand même plusieurs matchs à cause de blessures, mais Jones, ça a donné l'opportunité à Jones de vraiment s'implanter. Et il a fait le travail et on voit c'est une équipe, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de blessures à la défensive en début. Je pense qu'il avait joué 15 parties avec les mêmes défenseurs. Puis on voit leur brigade défensive. C'est des donnes, c'est des joueurs qui parviennent de d'autres équipes. Il était quand même des joueurs qui pouvaient jouer dans le top 4, un Larson, un Olofsson, un Schultz, puis un peu plus de jeunes, Soucy et Bergen. mais aussi Oleksiak, que j'ai oublié. Donc, c'est quand même une brigade défensive respectable. Et à l'avant, on a quatre trios qui travaillent et on a ajouté un jeune, leur premier choix, disons, non pas de l'année dernière, mais de leur premier repêchage, Ben Ears, qui avait joué au Michigan, qui avait très bien fait l'année passée après avoir fini sa carrière de collège ou sa saison de collège, avait signé avec Seattle. Et je pense qu'il avait été chercher un point par match. Cet été, on a ajouté un agent libre en Burskowski qu'on a signé, qui connaît quand même un bon début de saison, qui marque de gros buts. Donc, c'est une équipe qui joue dans le moment avec énormément de confiance et qui est dans tous les matchs.
Pas mal de fun à voir en ce moment, les Kraken. Dernier sujet pour toi. 38 ans, Marc-André Fleury, c'est bien sonné. Puis à 38 ans, t'en as plus de fêtes qu'il t'en reste à faire en Ligue nationale de hockey. Pourtant, Marc-André Fleury est capable encore une fois de faire la différence à ce moment-ci de sa carrière. Parle-moi de la qualité de l'homme, puis ce que t'as apprécié de lui, puis de ce que tu vois encore une fois avec le Wild, là.
Bien, donc, j'ai eu l'opportunité de le courtoyer, de le coacher pendant plusieurs années. C'était un énorme plaisir. Premièrement, c'est une personne qui est incroyable. C'est une personne qui est aimée de tous ses coéquipiers. C'est une personne qui amène beaucoup d'enthousiasme, qui amène beaucoup d'énergie dans la chambre, qui rend les choses légères. Marc-André a une attitude. Il sait comment... s'en prendre à ses coéquipiers pour ressortir le meilleur. C'est un gars que les joueurs aiment passer du temps avec. Puis c'est une incroyable personne. Et sur la glace, c'est un athlète aussi. C'est incroyable. On sait qu'il est toujours en très grande forme. Puis c'est un gardien de but, je pense qu'il faut lui donner du crédit, qui s'est amélioré avec les années. Je me rappelle lorsque je suis arrivé à Pittsburgh. Mike Bales, un ancien gardien des Chiefs dans les premières années, qui avait été embauché comme notre entraîneur de gardien de but, je pense qu'il a fait beaucoup pour Marc-André Fleury. Il a bien travaillé avec lui, a changé un peu son style, amélioré son style pour qu'il soit plus efficace, bâti une belle relation avec lui, puis je pense que ça l'a aidé à Marc-André pour plusieurs années dans sa carrière. Il joue plus sous contrôle. On sait qu'il a toujours été très rapide. C'est un batailleur. C'est un gars qui lâche jamais. Puis, ça n'a pas été facile pour Marc-André. Disons, même quand il était à Pittsburgh, on a gagné deux Coupes Stanley. La première, il avait été blessé. Il a manqué la majorité des playoffs. Mais la deuxième Coupe, les deux premières séries, et surtout la deuxième série contre les Capitals de Washington, on gagne pas cette série-là si c'est pas la performance de Marc-André. Puis, lorsqu'il y a eu une baisse de régime dans une partie contre les Sénateurs en finale de conférence, il s'est fait remplacer puis il a jamais revu le filet. Fait que c'est des choses qui arrivent pas souvent. On avait Matt Murray qui a pris la relève puis qui a bien fait. Mais, tu sais, c'est des choses qui sont pas faciles, mais Marc-André a une attitude exceptionnelle. C'est un athlète fantastique. Puis une excellente personne.
C'est le fun de le voir avec ce beau sourire-là, pepsodent. Partout où il va, il a l'air d'avoir encore du fun, puis c'est le fun de voir ça à 38 ans. Chapeau à lui, chapeau à toi. Avant de te laisser, je m'en voudrais de pas te dire qu'il y a Mark Schreiber qui nous suit dans quelques instants. Lui fait dire un beau bye-bye puis un beau bonjour à Jacques Martin. Alors, les salutations sont faites. À toi, je te dis merci beaucoup. Bonne semaine, Jacques, et à la semaine prochaine.
Bonjour à Mark, puis... félicite-le de ma part. Merci.
Excellent, merci. Bye-bye.
Faites la place maintenant à Christian Veilleux, un gars de la place qui est un joueur de football professionnel. Il faisait partie de l'équipe de Penn State, mais il a décidé de prendre son envol, comme on pourrait dire, dans la NCAA. Alors sur ce, je laisse la parole à Nicolas Saint-Pierre, qui est accompagné du joueur de football professionnel, Christian Veilleux.
Et on fait les choses autrement pour ouvrir l'émission parce que hier, au cours de l'émission, justement, on a parlé de la nouvelle qui a eu un effet choc quand même jusqu'ici dans la capitale. C'est notre prochain invité en ouverture du vestiaire qui, lui, s'est offert, en fait, dans la fenêtre de transfert parce que son passage avec Penn State s'est officiellement terminé hier. Pourquoi on parle de football en NCAA? C'est avec un énorme plaisir qu'on en jase avec le principal intéressé, Christian Veilleux. Christian, comment vas-tu?
Ça va très bien, vous?
Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'imagine que pour toi, dans les dernières 24 heures, ça a été assez rocambolesque.
Ouais, c'est bien dit.
La décision qui t'a poussé à... Ben, en fait, les raisons qui t'ont poussé à prendre cette décision-là. Un, je me trompe pas en disant que Drew Aller fait certainement partie de l'équation.
Ben, c'est sûr. Tu sais, Drew, il est un bon jeune, un bon joueur de football, c'est sûr. C'est vraiment pas lui la raison principale. J'ai toujours eu respect pour lui. Ça a toujours été un bon ami de moi. Puis je pense que dans le futur, on va toujours rester amis. Donc, il y a beaucoup d'autres raisons qui ont été dans ma décision, là.
Donc, est-ce qu'on parle de raisons personnelles ou est-ce qu'on peut en parler un peu en détail?
Ouais, c'est sûr. Comme moi, un jeune Canadien, carrière, ça a pas toujours été facile dans mon processus de venir aux États-Unis. Mais j'avais toujours eu le but de jouer aux États, d'avoir du succès comme leader, comme carrière et comme coéquipier. Donc, c'est la raison principale que moi, je veux mettre mon nom dans la fenêtre de portail de NCAA. C'est pour aller jouer quelque part, mettre mon nom dans la scène de college football et des carrières. Et j'ai des rêves d'aller dans NFL. Donc, je pense que ouvrir mes options d'aller dans une autre école, c'est la meilleure décision pour moi et ma famille.
Parlons avec Christian Veilleux, quart de la NCAA. Vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 18h30 au 94.5 Unique FM. Christian, il y a James Franklin, l'entraîneur-chef, qui, il n'y a pas si longtemps, parlait de ton attitude de top niveau. Adorait évidemment le professionnel que tu étais et tout ça. Peux-tu nous parler de la relation et est-ce que c'est quand même une relation qui demeure saine entre vous deux?
Non, ben c'est sûr. J'ai du respect pour James Franklin et l'opportunité qu'il m'a donné de venir à Penn State. Je vais toujours avoir un endroit social dans mon cœur pour cette université, ce programme ici. Donc, il n'y a jamais eu de relation mauvaise entre nous et je pense que ça va toujours rester comme ça.
Est-ce qu'il y a eu une influence sur toi? Quelle a été justement cette influence-là? Si oui, il y en a une.
Il a toujours été dans mon coin. Il m'a toujours supporté dans mes décisions et il m'a aussi supporté dans cette décision ici. Donc, il a toujours été quelqu'un que j'ai eu beaucoup de respect pour.
La décision qui dit que tu veux justement te retrouver ailleurs, pas de problème, dans l'intention d'être numéro un l'an prochain ou tu te donnes quand même une marge de manœuvre? Là?
Non, ça a toujours été mon but d'être numéro un à n'importe quelle école que je m'établis. Donc, c'est ça le but.
Maintenant, est-ce que tu as des préférés? Il y a certains programmes, Kentucky, Virginia Tech, UCLA, Iowa, Boston College, tous des clubs qui vont chercher justement des carrières pour l'an prochain. Est-ce que tu as des préférés? Tu as une place en tête justement au moment où on se parle?
Ben, j'ai communiqué avec certains programmes. Je ne veux rien dire au public. Mais j'ai définitivement des options qui m'intéressent. Ça va tout se faire dévoiler dans le futur.
J'imagine que tu as encore des bons souvenirs avec Penn State. Puis si on parle du match contre Rutgers, que tu es venu en relève de Sean Clifford, puis c'est quand même toi qui as été responsable pour la grande victoire. 28-0, tu avais fait 235 verges, je me trompe pas, 16-26. Parle-moi de cette expérience-là quand même, puis de ce que tu retiens de ton passage avec le programme, là.
Ben c'est ça avait toujours été mon expérience la préférée à Penn State. L'opportunité de jouer, de gagner et de lancer trois touchés, je pense que j'ai vraiment bien fait pour moi-même. Et j'aurais pas pu le faire sans l'aide de mes coéquipiers, l'aide de mes coachs. Puis c'est ça qu'on fait ici à Penn State. On gagne des games, n'importe qui c'est. Puis je pense que je vais toujours remercier les coachs pour m'avoir donné l'opportunité cette journée-là.
Christian, la première fois qu'on s'est parlé, tu rentrais à Penn State, tu préparais ton entrée à Penn State. Maintenant, il y a 2 ans qui sont écoulés. Peux-tu nous parler du Christian Veilleux, de son entrée et du Christian Veilleux maintenant qui part de Penn State, la différence, maturité, technique et tout ça? Comment tu as peaufiné ton style?
Bien, c'est sûr, comme quand je suis rentré 2 ans passés, puis que maintenant je pars après 2 ans, j'ai grandi énormément dans le football et à l'extérieur du football. Je pense que j'ai appris beaucoup de leçons avec l'école, beaucoup de leçons avec la vie. Et avec le football, j'ai vraiment appris des choses. Puis je vais définitivement garder des choses avec moi pour le programme prochain.
Peux-tu me parler comment ça fonctionne? Est-ce que tu es représenté par un agent en ce moment ou tu fais tout ça tout seul?
Non, je fais ça tout seul. J'ai pas vraiment l'opportunité d'avoir un agent. Ma situation visa, être ici sur un student visa aux États-Unis, donc c'est un peu compliqué dans ma situation.
Alors, comment t'es épaulé? Ça doit pas être facile comme ça, là, être tout seul dans ton camp comme ça, là.
Non, c'est pas facile, mais je suis pas tout seul, ça c'est sûr. J'ai de l'aide des coachs que j'ai toujours travaillé avec. J'ai de l'aide de mes parents. Mon équipe, c'est pas quelque chose que je m'inquiète avec.
On s'entend, Christian, c'est sûr qu'en étant un corps canadien, c'est pas évident, comme tu l'as dit en prémisse, mais il y a quand même de l'espoir en voyant les frères Rourke y aller de cette façon-là. Nathan, le plus vieux, qui va probablement avoir, travaille déjà avec des équipes de la Ligue nationale de football, et son frère, qui a été nommé, si je me trompe pas, le joueur offensif de Big Mac. Est-ce que ce sont des joueurs avec qui tu as une relation? Est-ce que tu surveilles justement ce qui se passe de leur côté?
Mais j'ai toujours surveillé leur processus, puis leur passe. J'ai toujours eu du respect pour Nathan avec ce qu'il fait avec les BC Lions, et maintenant il y a des opportunités pour aller dans la NFL. Donc je pense que ça c'est bon pour la culture des carrières canadiens. Et Nathan, je lui souhaite n'importe quoi que de la bonne chance. Curtis, on l'a joué contre lui cette année, puis j'ai vraiment été impressionné avec son attitude. Puis juste son talent comme carrière.
Oui, effectivement. Puis tout un talent à part de ça. Puis on lui souhaite la meilleure des chances. Mais à toi aussi également, peux-tu nous donner une idée de comment ça se passe pour toi? Tu continues tes études avec Penn State. Par la suite, tu fais tes valises. Ou qu'est-ce qui va se passer pour toi, là, pour Christian Veilleux, dans les prochaines semaines, prochains mois? Là?
C'est ça. J'ai à peu près 2 semaines d'école. Et après ça, je vais venir à la maison. Je vais prendre une couple de visites. Et ma décision, elle va venir très vite. Donc,
on te souhaite la meilleure des chances, Christian. Ça ne doit pas être évident, mais on est tous de ton côté, puis on te souhaite la meilleure des chances. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se dit à une très prochaine fois, puis quand tu seras en passage ici dans la capitale, j'espère pouvoir te serrer la pince.
Eh bien, merci beaucoup, puis merci pour l'opportunité à soir.
Au revoir, Christian. À bientôt.
Au revoir.
Christian Veilleux, mesdames, messieurs, un gars de la place, évidemment. On salue les gens du secteur Orléans, puis un gars qu'on va surveiller, évidemment, lui qui s'offre maintenant aux autres programmes en NCAA. C'est un bonhomme qui pourrait être prisé. Parmi les formations, on vous le rappelle, là, on en a parlé, là, il y a Kentucky, Virginia Tech, UCLA, Iowa, Boston College qui vont chercher des quarts arrière pour l'an prochain. Christian qui a bien en tête d'être partant à un moment donné, si c'est pas l'année prochaine, ben ça sera dans les autres années, mais lui, avec ce transfert-là, aura 3 ans d'éligibilité avec le programme avec qui il va pouvoir se joindre. Alors, on aura le temps, évidemment, de s'adapter. Puis, certainement, on va lui souhaiter de retrouver l'objectif, c'est-à-dire d'être numéro 1 quelque part. Et salut à tous les footballeurs et footballeuses de la région.
Nous sommes déjà rendus au dernier bloc de cette émission des meilleurs moments et on conclut le tout avec Mathieu Toupin de Tennis Outaouais Performance qui va nous jaser de la performance du Canada face à l'Australie à la Coupe Davis. Belle victoire du Canada qui commence petit à petit à écrire leur nom dans le fameux marché de ce sport.
Parlons un peu de tennis parce qu'on est passé à une autre étape dans l'histoire de ce merveilleux sport au Canada avec la victoire du Canada en Coupe Davis. Rien de moins contre l'Australie à part de ça. Il n'y a pas meilleure personne pour en parler que notre prochain invité. C'est le maître d'œuvre d'une institution au niveau du tennis dans la région, Tennis Outaouais Performance, avec un énorme plaisir qu'on parle avec Mathieu Toupin. Mathieu, comment vas-tu?
Merci de ce chaleureux accueil. Ça fait longtemps qu'on ne peut pas parler.
Puis écoute, Mathieu, quand j'ai dit ce matin dans mon commentaire, c'est qu'on s'est donné les outils. À un moment donné, on a pris une décision. Il y a eu l'investissement, aller chercher les bonnes personnes, placer les outils en place, puis le Centre national fait partie de ça. Et là, les résultats, quelques années plus tard, c'est la suite logique des choses, cette victoire-là, non?
Oui, effectivement, les gens, je pense qu'on peut voir les choses venir tranquillement. Peut-être le commun des mortels, hein, on découvre toujours sur le tard des Félix, des Denis, Leila Fernandez, on se dit, mon Dieu, d'où est-ce qu'ils viennent? Mais les gens dans le domaine, les gens de sport, on le sait qu'il y a beaucoup d'efforts derrière ça. Et oui, de mentionner qu'il y a beaucoup d'investissements en termes, évidemment, financiers, mais ressources humaines, infrastructures. Tennis Canada fait tout un travail. Je sais qu'autant dans le domaine du tennis, on les regarde beaucoup à travers le monde, mais il y a d'autres sports qui regardent effectivement ce qu'ils ont fait. Puis je pense que c'est un moment, comme tout le monde, ils ne sont pas parfaits, mais il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites, puis ils récoltent de beaux résultats en ce moment.
Puis quand je parlais, je tenais à mentionner Tennis Ottawa Performance. Veux pas, cette institution-là au tennis dans la région, c'est une des répercussions de ce qu'on voit en ce moment. Un ne va pas l'autre.
J'aime que tu le mentionnes comme ça, que tu l'amènes. C'est effectivement une victoire comme une Coupe Davis. Ça a des répercussions sur tout le système. Et oui, ben on a dit ça, on a été fiers à Gatineau et dans la région Ottawa-Gatineau de participer autant avec des présentations de tournois Futures, Challenger, qui si l'on parle de Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, Vachek Pospisil, les deux joueurs que le Canada avait en réserve, Gabriel Diallo et Alexis Gallarneau, ainsi que l'entraîneur-chef Frank Dencevich, ben, ils ont une chose en commun, ils sont tous passés par Gatineau. Puis ça, on n'en est pas peu fiers. Malheureusement, on n'a plus nos tournois, mais on ne pourra jamais nous enlever le fait qu'on a une petite contribution dans tout ça. Puis oui, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie d'un pays coast to coast pour en arriver à des résultats de ce niveau-là.
Oui, puis on peut en être fier à part de ça. Vous pouvez en être fier. Le résultat, c'est est-ce qu'on parle maintenant de... Ben, même si on le faisait avant, parce qu'on a quand même les gens qui sont en place, mais est-ce qu'on regarde maintenant le programme national de tennis d'une autre façon au niveau planétaire? Le Canada, maintenant, bel et bien une nation de tennis?
Ben, je vous dirais que effectivement les résultats sont là à des niveaux quand on voit ce que Bianca Andreescu a pu faire, Leila Fernandez, Félix et Denis, mais et là je lance pas un pavé dans la mare, là, il y a encore beaucoup de travail, selon moi, à faire pour que, je vous donne un exemple, que le Canada ait plus de joueuses et de joueurs dans le top 100 comme des nations comme l'Espagne, l'Australie ou même les Italiens actuellement ont beaucoup de joueurs sur le circuit. On n'est pas encore rendu là au Canada. Puis est-ce qu'on va pouvoir se rendre? Ça, c'est même une question qu'on pourrait débattre. De par notre situation, le nombre de clubs intérieurs, il y a encore beaucoup de travail. Vous le savez, j'ai voyagé au niveau des tournois juniors internationaux. Ben, être en Europe, c'est tout un avantage pour faire des tournois qui regroupe pratiquement tout l'Europe à chaque mois, tandis que moi, avec une Mélodie Collard, ça prenait des ressources financières incroyables pour voyager. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit côté encore qui nous limite beaucoup parce qu'au Canada, on n'a pas beaucoup de tournois. Aux États-Unis, il y en a, mais c'est souvent difficile d'y entrer. Donc, il y a encore des étapes à franchir pour que le Canada devienne une nation de tennis. Mais là, prenons le temps de se féliciter puis d'être heureux. C'est incroyable que Denis, Félix et Vachek Pospisil soient des joueurs de niveau top 20 en simple ou top 20 en double comme Vachek Pospisil nous l'a montré. Ça, il faut en être très fier, puis il y a du travail évidemment derrière ça.
Une Coupe Davis, ça amène son lot, puis certainement une belle carte de visite pour la suite des choses et des arguments de poids maintenant si le Canada doit négocier évidemment son poste dans l'échiquier mondial du tennis. Alors, c'est sûr que ça aura des répercussions positives, puis on dit encore une fois, félicitations Canada. Tant qu'à t'avoir avec nous autres dans le vestiaire, parlons un peu d'autres actualités dans le monde du tennis. Puis d'ailleurs, une nouvelle qui a retenu l'attention, c'est le changement d'entraîneur, un autre pour Bianca Andreescu, a laissé Sven Grønvel, qui est quand même pas le dernier des parvenus. On a fait appel maintenant à Christophe Lambert. Parle-moi de ce nouveau coach pour Bianca.
Oui, ben j'ai été agréablement surpris parce que j'ai côtoyé Christophe Lambert, qui est un Français d'origine, mais qui est venu travailler quelques années ici au Canada, justement pour Tennis Canada. Puis ensuite, je l'ai côtoyé sur le circuit international au niveau autant junior que professionnel, les tournois ITF, tout ça. Et je vais vous avouer que Christophe Lambert n'a peut-être pas les mêmes cartes de visite que l'ancien entraîneur Sven de Bianca, mais je trouve que Bianca prend peut-être une décision d'aller retrouver un petit peu ce qu'elle avait avec un Sylvain Bruno qu'elle connaissait bien, qui l'avait vu grandir, qui l'avait développé. Moi, j'ose dire que c'est un beau risque qu'elle prend là, de retourner avec quelqu'un qui l'a connu plus jeune, qui connaît un peu comment il est. Les dernières décisions de Bianca avaient été prises comme beaucoup de vedettes internationales en allant chercher préparateur physique, entraîneur de tennis de renom. Mais des fois, moi, c'est ma perception à moi, on peut se perdre là-dedans et de voir Bianca retourner avec quelqu'un avec qui elle a peut-être plus d'affinité. Moi, je pense que ça peut être de belles choses. Et Bianca, je l'ai un petit peu ce qu'elle diffuse présentement. Elle semble vraiment vouloir revenir. Ben, en fait, l'objectif, c'est de revenir dans le top 10 en 2023. Puis je pense qu'elle a placé les choses en 2022 pour y arriver. Donc, c'est une belle nouvelle encore là pour le tennis canadien.
On lui dit le mot de Cambronne, évidemment. Question encore une fois de rappeler comment on a du bon tennis, mais l'excellence qui se passe ici avec Tennis Outaouais Performance. En fin de semaine, est-ce que c'est en fin de semaine, il y aura un tournoi et tu envoies ton équipe au Centre national, puis de cette équipe-là, il y aura des représentantes ici franco-ontariennes?
Oui, ben c'est ça, puis j'aime toujours, parce que souvent les gens vont dire, ah, c'est quoi les répercussions sur les jeunes, une victoire comme ça? Ben ce week-end, on a un bel exemple à Montréal, au Centre national, il y a une compétition Formule Coupe Davis, deux garçons et deux filles de chaque club. Il y a 12 équipes qui vont se rencontrer. Et qui sait si la Coupe Davis ne sera pas à Montréal ce week-end? Qui sait si Félix ne passera pas très loin? Je ne sais pas, mais tout ça pour dire que les jeunes, cette semaine déjà, on reprend l'entraînement, ils l'ont vécu ce week-end et ils vont jouer un tournoi du même type. Donc, on peut se dire que les 50 jeunes qui vont être présents là vont être très, très motivés. Puis je suis très fier de dire que Xavier Nguyen et Jack Etona, deux jeunes franco-ontariens de la région, et Elise Chen et Juliette Toupin, deux petites Québécoises de la rive gatinoise, ben, ils vont former une belle équipe pour top pour aller justement compétitionner dans ce beau tournoi.
Ben, on vous souhaite évidemment la meilleure des chances, puis on vous évidemment souhaite d'arriver au top. Merci beaucoup, Mathieu.
Bien, bien gentil, merci à vous.
Toujours un plaisir, Mathieu. On fait ça très, très bientôt. Bye bye.
Merci.
Mathieu Toupin, mesdames, messieurs, de Tennis Outaouais Performance. Rien de moins. Félicitations à tous les athlètes. Puis la meilleure des chances aux représentants de Tennis Outaouais Performance à ce tournoi en fin de semaine au Centre national.
Et voilà ce qui complète l'émission des meilleurs moments. On vous rappelle que Dans le vestiaire, c'est diffusé du lundi au jeudi de 17h30 à 19h. Et on a un match au hockey. Véronique Le Sieur des Sénateurs ce soir à 19h pour affronter les Rangers de New York au Madison Square Garden. À ne pas manquer, ça sera présenté sur nos ondes au comté de 18h30 pour l'avant-match du CECCE. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même poste, pour une autre émission des meilleurs moments du vestiaire. C'est Mickaël Lafleur qui vous souhaite une bonne journée sur les ondes du 94.5 Unique FM. À lundi pour Dans le vestiaire.